Et oui, là, on vient de se quitter après une interview très, très intéressante avec le collectif contre les violences familiales, exclusion de Liège. On parlait de féminisme, parce que c'est important, et qu'on imagine aisément une Simone de Beauvoir enfiler des bas en nylon, oui, sans transition, mais qui dit féminisme dit forcément Simone de Beauvoir, finalement. Dans les années 30, avant de courir boire des verres à Montmartre, elle enfilait des bas, oui, pour étudier à la Sorbonne. Outre son apparence physique, toujours très classe, le castor est une pionnière, de l'existentialisme, une doctrine littéraire qui explique que l'être humain forme l'essence de la vie, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, en lisant pour la première fois le deuxième siècle, il y a peu, que nous ne sommes pas femmes, nous sommes nés humains, mais nous sommes devenus femmes par l'action culturelle, les milieux sociaux dans lesquels nous évoluons. Par exemple, la mode des bas nylons et une autre mode se justifie par « il faut porter des bas nylons car les femmes le doivent, c'est ainsi ». Une pression sociale qui s'exerce alors sur nous, nous devons trouver des bas nylons sous peine de ne plus être considérées comme des femmes. Alors l'être se justifie donc par le paraître. Oui, ça paraît vachement abstrait quand je vous l'explique comme ça, mais je vais laisser la grande Simone de Beauvoir parler à ma place de son deuxième sexe, un livre paru en 1949 alors que la philosophe avait 41 ans et que les femmes venaient d'obtenir le droit de vote quelques années plus tôt.
Au début, je ne pensais pas du tout m'occuper jamais d'une manière spéciale des problèmes du féminisme, parce qu'il me semblait, et d'ailleurs il me semble encore aujourd'hui, que ces problèmes sont subordonnés à des problèmes sociaux beaucoup plus vastes. C'est seulement dans ces dernières années que ce désir m'est venu, d'une part parce qu'il m'a semblé que les femmes d'aujourd'hui avaient beaucoup de mal pratiquement immoralement à vivre et qu'elles étaient dans un état de déséquilibre, et d'autre part parce que j'ai été assez irritée, comme beaucoup de femmes, par le nombre de grandes sottises qui se débitent à propos de nous et à propos de notre situation. Pour moi, c'est un livre que j'ai écrit sans aucune inimitié, sans aucune hostilité. J'ai simplement essayé de faire une mise au point. Je ne crois pas du tout que ce soit un ouvrage de revendication, de ressentiment, de complexe d'infériorité, comme on l'a insinué, parce que, étant donné que j'ai dû travailler tout de suite et que tout de suite j'ai eu une carrière qui me plaisait, je n'ai vraiment jamais souffert de l'inégalité qui existe en général.
C'est exactement mon avis. Je dirais même carrément qu'il me semble que vous êtes tellement au-dessus de la condition moyenne de la femme que vraiment vous devez en effet échapper complètement à toute espèce de complexe d'infériorité. Nous supprimerons donc, c'est évident, le mot de revendication, mais je pense que tout de même on peut dire que vous avez voulu tout de même, comment dirais-je, frapper un coup, si je peux dire, agir, n'est-ce pas, en écrivant ce livre. Il n'est pas purement dans l'abstrait.
Certainement, pour moi, c'était une action, c'était une espèce d'engagement. J'ajouterais d'ailleurs que même si je l'avais fait dans une intention de revendication, après tout, il aurait pu être également quelque chose d'impartial et d'objectif.
Oui, mais ça aurait été regrettable.
En fait, il ne l'était pas, mais il y a certainement dans ce livre une certaine passion, parce que le fait est que je trouve que la situation des femmes telle qu'elle est aujourd'hui est déplorable à la fois pour les femmes et à la fois pour les hommes, qui d'ailleurs les uns et les autres s'en plaignent, et que bien entendu, ça n'a rien pour moi d'un exposé simplement abstrait. C'est vraiment en effet l'expression de quelque chose que je
trouve. Ce qui m'a paru en effet très frappant dans votre livre, c'est que vous indiquez très nettement que les hommes qui ne s'en rendent pas compte, qui sont complètement inconscients de ça, en réalité, souffrent autant que les femmes de cette condition qu'eux-mêmes ont imposée aux femmes. Ça me paraît une vue très neuve et très importante. Toutefois, j'ai justement quelquefois aussi entendu porter cette critique sur votre livre que vous n'apportiez pas essentiellement une très grande nouveauté. On aurait voulu, je ne sais pas moi, que vous créiez je ne sais quelle nouvelle psychologie de la femme. Et ça me semble une critique absurde, parce que je vois très bien, mais vous allez nous le dire vous-même, pourquoi il n'était pas question pour vous de faire quelque chose d'entièrement neuf. Qu'est-ce que vous avez voulu faire exactement? Ce n'est pas ça, justement.
Pour moi, il ne s'est en effet pas du tout agi d'apporter des révélations extraordinaires. On m'a reproché de ne pas faire de révélations, de ne rien dire d'extraordinairement neuf. Mais bien entendu, il y a des femmes depuis que le monde est monde, et on en a parlé énormément et discuté, on a écrit tout sur elles, on a même écrit trop, puisqu'on a écrit les choses les plus contradictoires. Il s'agissait donc non pas de découvrir des horizons absolument inconnus et extraordinaires, mais simplement de faire une espèce de mise au point, d'essayer de systématiser un peu tout ce fatras d'opinions qui sont répandues sur les femmes et d'essayer de dégager à travers tout cela ce qui, à mes yeux, est la vérité. Il s'agissait aussi de prendre un point de vue existentialiste, de prendre une perspective singulière sur un ensemble de faits, en effet, que je n'ai pas du tout cherché à trouver parmi les plus étranges et les plus étonnants. Au contraire, que je voudrais aussi familier et aussi par conséquent convaincant que possible, par leur généralité même. Ce n'est pas du tout essayer de faire quelque chose de nouveau ou d'extraordinaire ou d'étonnant, mais bien plutôt quelque chose de vrai.
quelque chose de vrai, oui. La liberté des femmes dans tous les domaines de leur vie, y compris par leur corps, voilà quelque chose de vrai également. On va donc parler ici d'une autre Simone et de ses banylons, car là, nul doute qu'elle en ait porté tout au long de sa vie. La grande Simone Veil et sa fameuse loi sur l'avortement en 1974. Cette dame a lutté toute sa vie pour améliorer la vie des autres femmes, y compris au niveau de la contraception, comme pour la loi Neuwirth de 1967, qui autorise la vente des produits contraceptif, on l'écoute ici.
Outre l'intérêt des enfants à naître, l'espacement raisonnable des naissances constitue aussi un facteur essentiel pour l'équilibre du couple, pour la santé physique et mentale de la femme et pour son épanouissement, qui est une condition indispensable à celui de ses enfants. Enfin, il y va aussi de l'intérêt de la collectivité nationale tout entière, dans la mesure où une succession de naissances dans un espace de temps trop rapproché peut constituer, dans des milieux familiaux fragiles, un facteur très important de déséquilibre et d'inadaptation sociale, risquant ainsi de mettre à la charge de la société un nombre considérable d'enfants à problème.
Pour Lucien Neuwirth, qui est à l'origine du projet de loi de 1967, la France, après tant de tergiversations, s'engage sans retour sur la voie d'une politique authentique de régulation des naissances. Satisfaction également du côté du planning familial, qui se félicite que le gouvernement reprenne aujourd'hui des propositions qu'il a lui-même formulées depuis des années.
Dans les années 70, les différents courants féministes européens se structurent, y compris en Belgique, où différentes associations et organismes ont vu le jour pendant cette période, comme par exemple l'Université des Femmes à Bruxelles, pour ne citer qu'elle. Banylon ou non, nous y sommes toutes acceptées pour plus d'instructions sur nos droits et les combats qu'il faut encore mener pour ne plus se laisser dicter de porter des bas ou pas. N'est-ce pas, Déborah ? Ça rime en plus.
Eh bien, n'est-ce pas ? Oui, c'est débat ou pas, Déborah. Et est-ce que vous saviez que le nylon est finalement assez récent, mine de rien ?
Oui.
Alors, en fait, il a été inventé, enfin découvert, on ne sait pas, enfin, c'est toujours assez ténu entre l'invention et la découverte, par Wallace Carothers, c'était le 8 février 1935, c'est assez précis. Et en gros, c'est une matière plastique dérivée du pétrole. Et qui a été utilisée comme fibre textile. Il est à signaler que c'est quand même la première fibre synthétique créée par l'homme à partir de produits pétrochimiques. Et ça fait office à ce moment-là d'une petite révolution dans le domaine de la chimie. Et d'ailleurs, la société Dupont dira de la trouvaille « aussi résistant que l'acier, aussi fin que ceux d'une toile d'araignée et possédant un éclat magnifique ». C'est joli quand même.
Ouais, c'est
du coup, on
beau.
En parlera encore. C'est vraiment la société donc, qui est à la base de ces découvertes et qui va donc, commercialiser, breveter et compagnie ce produit. Alors moi, je pourrais aisément vous expliquer la fabrication du nylon, sans problème.
Facile.
Mais je vais laisser Jamie de C'est pas sorcier vous l'expliquer quand même vachement mieux que moi.
Pour fabriquer du nylon, des chaussettes par exemple, on prend des produits dérivés du pétrole. Un produit lourd au fond de l'assiette et un produit plus léger contenant de l'eau qu'on a colorée dans la seringue. En mélangeant ces deux produits, il va y avoir une réaction chimique, l'eau va disparaître et à la surface de ces deux produits, il va se former un solide et ce solide, c'est notre fameux nylon. Il ne reste plus qu'à le récupérer, c'est du nylon. Et à l'entourer. Et ça peut durer comme ça pendant des heures.
Je vous invite à regarder ce C'est pas sorcier, c'est assez étonnant la façon dont il fait du nylon comme ça en direct. Enfin, il fait en direct, mais enfin, il le fait comme ça en temps réel. C'est assez impressionnant. Alors sinon, le mot, le nom nylon est en lui-même une légende. Alors, il provient d'où ? On ne sait pas très bien. Est-ce qu'il a une étymologie ? En tout cas, il ne vient pas ni du grec ni du latin. Et il ne vient pas non plus du nom scientifique de cette nouvelle matière, qui est en fait le polyamide 6-6. Rien à voir donc avec le nylon. Ni même dans sa formule chimique. Alors, formule chimique qui est le C12H22N2O2. C'est assez compliqué quand même. Donc là, on ne voit pas non plus où est le nylon. Alors, on parle au départ des initiales des deux villes anglo-saxonnes de la mode, New York et London. Londres, London. Mais aussi... Et là, c'est plus rigolo, des prénoms des épouses. Vous voyez, hein, nylon, histoire de femme.
Féminisme.
Voilà, épouse. Des prénoms, des épouses, des inventeurs. Et oui, les inventeurs, puisqu'on a parlé de Wallace Carothers. Alors là, vous dites, mais non, ce sont les inventeurs, mais quelle est cette histoire? Donc, Wallace Carothers, qui est l'homme qui découvre le fameux polyamide 6-6, se suicide après avoir déposé le brevet de son invention, mais aussi sans lui avoir donné un petit nom sympa. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que Carothers ne travaillait pas pour lui-même, mais bel et bien pour une entreprise de chimie américaine. Tiens, on reparle de Dupont, qui dans sa formule générale s'appelle Dupont de Nemours. Et donc tout logiquement, ce sont des chercheurs de la même entreprise qui reprennent les recherches de Wallace Carothers et entre autres de son ou ses applications, dont le... Elle suit plus. Nylon.
Dans le nylon.
Et donc, quelle sera...
Mais non, mais j'étais plongée dans Wallace Carothers.
Et donc, quelle sera la première application du nylon? On va pas lui demander.
Le haut? Non.
Joli. Eh ben, ce n'est pas le bas nylon. Sachez que c'est... La première invention à base de nylon sera une brosse à dents.
Ah bah ça, c'est étonnant en effet, oui.
Parce que juste avant le nylon, il faut savoir quand même que la brosse à dents, la brosse, c'était des poils de porc.
Voilà.
Donc c'est vachement mieux quand même. Voilà. C'est quand même plus sympa, le nylon. Et donc elle sera commercialisée la première fois en 1938. Le bas nylon viendra après les recherches de 5 chimistes, dont les prénoms des femmes sont Nancy, Yvonne, Louella, Olivia, Nina...
Nina, que des... Donc voilà.
Non, pas que des N, ça fait nylon.
Oui, ouais, c'est vrai. Voilà.